Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici l'histoire d'un taré, un sacré taré, Joseph Messina. Je vous donne son nom parce que vous ferez sa connaissance dès le début de mon histoire. En 1993, Messina a dézingué sa femme et le nouvel amoureux de sa femme, froidement, sans état d'âme. Il ira même jusqu'à dire qu'il se sent beaucoup mieux depuis. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
Le dimanche 12 septembre 1993, à 2h du matin, les gendarmes de Brignoles, dans le Var, reçoivent un appel très étrange.
Il nous a attachés. La petite. Il nous a pris ma nièce. On pouvait plus bouger. La petite pleure. Faut les retrouver. Très vite.
Où est-ce que vous êtes, monsieur?
On est au Val.
Vous ne bougez pas. Vous respirez, vous vous calmez, on arrive. Le Val, c'est juste à côté de Brignoles. Les gendarmes arrivent sur place rapidement et ils tombent sur un homme très secoué, flanqué d'une fillette d'environ 10 ans, en larmes. Bon, c'est qui cette petite fille, monsieur? C'est Victoria. C'est ma nièce. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Il est rentré chez nous, il avait un pistolet... Il nous a ligotés sur le lit. Et il est parti avec Magali. Essayez de vous calmer, monsieur. Qui est Magali, monsieur? Magali, c'est ma nièce. C'est la mère de la petite. Il est parti la tuer quelque part, j'en suis sûr. Quel est son nom à Magali? Ferrand. Magali Ferrand. Et à quoi il ressemblait cet homme, monsieur? Mais je le connais. C'est le mari de Magali. C'est le père de la petite. Il va la tuer, c'est sûr. Il est complètement fou. Elles vivent ici, votre nièce Magali et votre petite nièce Victoria? Juste depuis 2 semaines. À cause de lui. Mais il les a retrouvées. Mais pourquoi il lui en voulait à votre nièce? Eh bien parce que Magali, elle a un nouveau copain. Thierry s'appelle. Et l'autre, il est jaloux comme tout. Il s'appelle comment, le mari de votre nièce? Joseph. Joseph Messina. Et là, les gendarmes se tournent vers la petite. Et toi, Victoria, tu peux nous raconter? Papa, il est très méchant. Il voulait tuer maman. Et Thierry aussi. Thierry, c'est le nouveau copain de ta mère, c'est ça? Oui. Et comment tu sais que ton père veut le tuer? Tout à l'heure, il avait les clés de la voiture de Thierry dans la main. Je les ai reconnues. Ça veut dire qu'il l'a trouvé lui aussi? C'est donc l'histoire d'un ex-mari, jaloux, de toute évidence, violent, ça paraît clair, qui est arrivé à localiser sa femme qui se planquait et sans doute son nouvel amoureux. Et qui va peut-être les dézinguer tous les deux. Donc, faut pas traîner. Les gendarmes lancent immédiatement un plan de recherche national et international. Ils sont d'autant plus inquiets qu'ils ont interrogé le fichier. Joseph Messina sort de prison. Et il a sale réputation. Bon, l'oncle nous a dit que Messina ne connaissait pas son adresse. Donc s'il a trouvé l'adresse, c'est que quelqu'un la lui a donnée et il pense que le seul qui savait où elle était, c'est donc le nouveau copain Thierry. Thierry Garbolino, l'oncle nous a donné son nom. Il est censé habiter Chambéry, donc il faut demander aux collègues de Chambéry d'aller voir chez lui. Avec un peu de chance, il est encore vivant. Ça, il y a de quoi en douter. Les gendarmes vont chez lui, ils sonnent. Manifestement, le petit copain Thierry n'est pas là. Le lendemain matin, les gendarmes reçoivent l'appel de 2 chasseurs.
Voilà, on est parti à la chasse de bonne heure et on a trouvé un cadavre. Enfin, je pense qu'il est mort. Il bouge pas, il est plein de sang. On n'a pas osé s'approcher.
C'est à quel endroit, monsieur ?
Au Mont Granier, sur un sentier.
Entendu, donc vous retournez sur place ? Vous vous mettez sur le bord de la route pour qu'on puisse vous localiser, on arrive. A priori, le type a reçu 2 balles dans la tête.
C'est du 11-43, si tu veux mon avis. C'est même sûr. Regarde dans sa poche, s'il n'y a pas quelque chose pour l'identifier. Ouais, il y a un carnet de chèques. Au nom de Thierry Garbolino, donc c'est le type que les collègues de Brignoles nous ont demandé d'aller voir chez lui hier soir, ça.
Eh oui, c'est lui. Comme le craignaient l'oncle et sa petite nièce, Messina l'a dessoudé. Pan, pan. Il avait 27 ans, il était ingénieur en informatique et, contrairement à Messina, il paraît que c'était un doux, un tendre. Cette fois, Magali avait tiré le bon numéro. Mais il est mort. Les gendarmes de Chambéry se lancent alors dans une enquête pour tenter de savoir dans quelles conditions Garbolino a été abattu. Et quand ? Il commence par aller à son boulot.
Oui, il était au boulot, toute la matinée de vendredi. Il est parti à midi. Il nous a dit qu'il fallait qu'il récupère le vélo de la petite Victoria, c'est la petite fille de Magali, sa nouvelle compagne. Il devait les rejoindre pour le week-end, et donc il fallait qu'il apporte le vélo. Et il est revenu l'après-midi. Oui. Oui, il est revenu travailler à peu près jusqu'à 5h30. Rien de particulier à nous signaler. Si, quand il est parti, par la fenêtre, j'ai vu qu'il parlait à un gars. Et après, ils sont montés dans la voiture, ils sont partis.
Le gars en question, ça devait être Messina. Et on peut imaginer qu'ensuite, il a extorqué à Thierry l'adresse de Magali. Et qu'ensuite, il est allé le dézinguer dans le bois. Confirmation que ce Messina est une brute épaisse. Et qu'il y a toutes les raisons d'être inquiet pour Magali. Très inquiet. La suite se passe dans le Var. En fin de matinée, pas loin de Val, 2 promeneurs tombent sur un cadavre. Et c'est le cadavre de Magali. 2 balles de gros calibre dans la tête. Les gendarmes font venir un médecin.
Bon, on regarde la température du corps et des rigidités cadavériques. Je dirais qu'elle a été tuée vers 1h du matin. Oui, 1h du matin.
Ça veut dire que Messina, qui l'a enlevé chez son oncle à minuit, l'a tué 1 heure plus tard. La brute ! À partir de ce moment-là, retrouver Joseph Messina devient une urgence absolue.
Bon, d'abord, dans un premier temps, il faut mettre tout l'entourage de Thierry Garbolino et de Magali Ferrand à l'abri. Nous, il faut qu'on s'occupe de la petite Victoria. Il va peut-être vouloir la récupérer elle aussi, donc le mieux, c'est de la faire venir ici, à la gendarmerie. Elle sera vraiment à l'abri ici.
Lui, évidemment, il va essayer de se planquer. Peut-être en Italie, puisqu'il est d'origine italienne. Ses parents ont émigré dans la région de Chambéry dans les années 60. D'ailleurs, il faut peut-être que je vous dise 2 ou 3 choses sur lui, le temps qu'on le retrouve, si on le retrouve. Parce qu'il a un passé, le Lascar. Un sacré passé qui fait craindre le pire. Je vais pas pouvoir vous donner tous les détails, il y en a long comme le bras. Retenez seulement qu'à la fin des années 80, Messina était à la tête de ce qu'on appelle un gang à tiroir. Une bande de braqueurs du genre qui débarque haut les mains, peau de lapin, et qui se tire avec la caisse. Une sacrée bande qui, pendant 1 an, a signé 12 braquages. Évidemment, à un moment, il s'est fait pincer. Là aussi, je vous passe tous les détails. Il a filé en tôle. Et puis le juge d'instruction manquait de preuves. Il y a de la chance que pour les coquins. Et donc, dans l'attente du procès, il a été obligé de le laisser sortir en liberté provisoire. Et ça nous intéresse de près parce que c'était il y a 3 mois, tout ça. Quand il dézingue sa femme Magali et le nouveau copain de celle-ci, ça fait 3 mois que Messina est dehors. Et maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fichait avec lui, ce sale type, Magali ? Eh bien, vous le savez, ça. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Elle est tombée raide dingue de lui, elle avait 17 ans. Elle le trouvait romanesque, sans doute. Même si sa mère ne l'aimait pas du tout. Alors elle a attendu ses 18 ans et hop, elle a filé avec lui. La petite Victoria est née 2 ans plus tard. Et là, ça a commencé à tourner vinaigre. Il était jaloux, possessif. Enfin, c'est simple. Elle n'avait pas le droit d'avoir un copain garçon. Juste un copain. Il fallait qu'elle reste enfermée avec sa fille à la maison, alors que lui disparaissait des nuits entières. Et puis, bon, il a été arrêté. Et Magali, elle est devenue une femme de prisonnier. Elle allait le voir, elle lui envoyait de l'argent. Mais attention, il avait beau être en taule, elle n'était pas libre. Elle avait intérêt à marcher droit, hein. Elle avait les frères et la mère de Messina sur le dos. Mais elle l'aimait plus. Elle en voulait plus de Messina. Et lui, depuis sa prison, il l'a bien senti. Et ça l'a rendu fou. Pour vous dire, un jour, elle vient le voir au parloir. Elle oublie de porter le linge propre, c'est elle qui faisait son linge. Il lui a balancé une torgnole au parloir. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Thierry. Et qu'elle est tombée amoureuse de lui, quoi. Faut reconnaître qu'il était tellement différent de Joseph. J'avoue que je la comprends. Mais il l'a su, lui, en prison. Elle est allée le lui dire. Sur le coup, il n'a pas trop réagi. Faut dire qu'il avait besoin d'elle. Il espérait sortir de prison. Et pour ça, il lui fallait quelqu'un pour promettre de l'héberger. Il en avait besoin, quoi. Et elle l'a fait, hein. Elle a signé le certificat d'hébergement. Elle a eu tort, hein, parce que si elle n'avait pas signé ce pape-là, lui, il serait encore derrière les barreaux. Et elle serait encore vivante. Et quand il sort de prison, comment ça se passe? Ça se passe mal. Il va direct chez elle, avec une idée fixe. Qui est ce type qu'elle a rencontré? Un jour, il lui a même collé un cran d'arrêt sur la gauche pour qu'elle parle. Et là, elle lui a dit qu'elle avait quelqu'un. Elle n'a pas voulu lui dire son nom. Hein. Mais elle, pourquoi est-ce qu'elle ne porte pas plainte à ce moment-là? Mais elle a porté plainte à la police. Et ils n'ont pas réagi. Si, il a été convoqué. Il les a embrouillés. Mais les flics, évidemment, ils ne savaient plus qui disait la vérité. C'était parole contre parole, alors. Ils l'ont laissé repartir. Et c'est là que Magali, elle a pris sa fille sous le bras et qu'elle est allée se réfugier chez son oncle dans le Var, là où il est venu la chercher, pour la tuer. Elle avait peur. Ah ça oui. Elle était terrorisée. L'impression, vous savez, d'être une bête traquée. Elle pouvait quand même pas se cacher toute sa vie. Et donc là, elle a écrit au procureur de la République pour lui dire qu'il était dangereux, qu'il fallait qu'il retourne en tôle. Il a pas répondu. Alors elle lui a écrit, réécrit. Sa dernière lettre date du 1er septembre. Et 10 jours plus tard, il l'a tuée. Bon, ben maintenant, je pense que vous savez à peu près tout sur ce sale type, sur cette brute épaisse. Maintenant que ce type est en cavale, il faut le retrouver, fils.
Patrouille à autorité. Bon, on vient de retrouver le véhicule de Garbolino Thierry sur un parking à environ 30 km de Chambéry. D'après les riverains, elle n'a pas bougé depuis 15 jours.
La fouille de la voiture ne donne rien. Les gendarmes, bien sûr, ont placé sur écoute tout l'entourage de Messina, mais ça ne donne rien non plus. Sa famille et ses amis connaissent la musique, ils se méfient. Parallèlement, l'affaire fait la une des journaux. Un double meurtre, c'est normal. Et du coup, les gens le voient partout. Et les gendarmes, à chaque fois, vérifient. Ils perdent beaucoup de temps à ça. Et ça ne donne rien non plus. Le grand espoir, à ce moment-là, c'est le pognon. Parce que ça coûte cher, une cavale. Faut se loger, faut bouffer, faut payer des gens pour qu'ils se taisent. Et donc l'idée, c'est que, sauf s'il a des réserves, à un moment, Messina va devoir sortir du bois pour se refaire. Et ça ne loupe pas. Un hold-up a eu lieu ce matin dans une agence du Crédit Lyonnais, en plein cœur de Chambéry. Le braqueur est arrivé à 8h30 à l'ouverture de la banque avec un revolver à la main. et un casque de moto dans l'autre. Il a agi à visage découvert, cheveux taillés courts et moustache. Et 5 minutes plus tard, il s'est enfui avec la somme de 185 000 francs.
Et comment a-t-il fait pour se faire remettre cette coquette somme par la directrice?
Ben, il a dit « je suis recherché par la police ». Il a dit « j'ai plus rien à perdre ». Il a dit « personne ne bouge ou je tire. Amenez-moi la caisse immédiatement ». Et on voyait bien qu'il rigolait pas, quoi. Il avait vraiment plus rien à perdre.
Inutile de vous préciser que c'est Messina, bien sûr. Gonflé, le gars. Gonflé et aux abois. Joseph Messina refait parler de lui un mois plus tard. Quand une lettre arrive à la rédaction du journal local de Chambéry, le Dauphiné libéré, et au même moment au bureau du procureur. C'est un courrier épais, posté à Lyon, et signé Joseph Messina. Et au cas où on aurait un doute, il a apposé ses empreintes digitales. Et vérification faite, ce sont bien les siennes. C'est une très longue lettre, de 80 pages, d'une écriture régulière et sans rature. Une lettre dans laquelle il raconte son histoire avec Magali, de son début merveilleux jusqu'à sa fin tragique. Le journal décide de publier 3 jours de suite des extraits de la lettre. Mais pas en totalité, hein, pour ne pas blesser les familles de Magali et de Thierry. « Je suis bien Joseph Messina, né le 4 décembre 1959 à Chambéry, actuellement en cavale. On me dit dangereux, face au danger certainement, quelles que soient les circonstances, mais jamais plus que certains flics. Je suis loin d'être un ange, mais sûrement pas un ennemi public comme on dit. Je suis encore jeune, mais je connais déjà beaucoup de choses de la vieillesse. J'en ai peur, et donc, je n'espère pas me faire vieux. En attendant, chaque jour de liberté que je vous vole est une victoire pour moi. » Et après, Messina explique le sens de sa démarche. « Il faut que nous fassions un saut dans le passé, afin que je vous raconte tout cela depuis le début. Par ces mémoires, je viens pas vous mendier la clémence pour le jour où je passerai en justice, et encore moins essayer de minimiser les faits. De cette histoire, je veux juste donner la version détaillée. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Je ne regrette qu'une seule chose, c'est d'avoir fait un enfant avec elle. » Et ensuite, il réécrit l'histoire à sa sauce. Une histoire dans laquelle il n'est pas le salaud. Une histoire dans laquelle il est presque la victime. Honnêtement, ça me fait suer de vous lire certains passages de cette lettre. Ça me fait suer de participer à la mystification de ce type. Juste quelques extraits pour que vous voyez à quel point c'est insupportable. Par exemple, il écrit que c'est elle qui le délaissait et le trompait. Alors qu'on sait que c'est lui qui l'a délaissé et qui l'a trompé. Il se plaint aussi qu'elle ne soit pas venue assez souvent le voir au parloir. Il dit aussi qu'un jour il est arrivé au parloir et qu'elle était habillée comme une salope. Bon, j'arrête là, ça me débecte. Ce type se prend pour le centre du monde. Et moi, j'ai aucune envie de le mettre au centre du monde. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le récit qu'il fait des 2 crimes. Parce que dans cette lettre, il avoue, il assume. Le meurtre de Thierry, d'abord. Il l'a attendu sur le parking de son entreprise pendant 2 heures. Et quand il l'a vu arriver, il lui a montré son arme et il lui a dit « Tu me reconnais? Tu sais qui je suis? Alors ferme-la, sinon je te bute. » Et là, il dit que Thierry était mort de trouille et qu'il a prétendu qu'il ne voyait plus Magali. « Si c'est Magali que tu cherches, je la vois plus. Je sais pas où elle est. » C'est très embêtant, ça. Allez, ouvre la voiture. Ouvre la voiture! Et là, il raconte qu'il a vu le vélo. Mais c'est le vélo de ma fille, ça. Tu dis que tu sais pas où elles sont.
Et tu leur amènes des affaires? Tu me prends pour un con? Tu sais pas où elles sont? Monte dans la voiture. Messina raconte qu'il prend le volant, qu'il roule une dizaine de kilomètres, qu'il s'arrête dans une carrière désaffectée, qu'il fait descendre Thierry et qu'il lui crie « Où sont-elles? Où sont-elles ?» Il dit que là, il le gifle, il lui passe les menottes. « Où sont-elles ?» Et là, il raconte que l'autre lui balance l'adresse. Il l'aide à se relever, il le pousse dans la voiture, il l'emmène au col du granier. Il arrête la voiture, il le fait descendre, il lui enlève les menottes. On va marcher, un peu. Et après, je devrais t'attacher. Je vais être sûr que tu préviendras personne. À un moment, Thierry lui demande.
Alors, tu vas faire quoi?
Moi? Je tuerai Magali demain. Et toi, ben... Tout de suite. Dans cette lettre, il raconte aussi comment ça s'est passé avec Magali. Dans la voiture, elle lui demande.
Tu vas faire quoi, là, José?
Ben, j'ai tué Thierry, tu sais. Et tu vas le rejoindre. Mais d'abord, je vais te montrer son cadavre. Il l'emmène sur un sentier et elle lui dit
« Mais je t'en supplie, pense à Victoria !»
Et toi, t'y pensais à Victoria quand tu te faisais sauter en boîte de nuit? Et là, il lève le bras. Il faudra attendre 4 mois pour retrouver Joseph Messina, par hasard. En janvier 1994, les policiers de la brigade de répression du proxénétisme arrêtent un Mac à Paris. Ils perquisitionnent un de ses studios et dans le lave-linge, ils trouvent un Colt 45, des chargeurs, des munitions, des holsters, des gants, du maquillage, du ruban adhésif et une cagoule.
C'est à qui ça? C'est à qui? Oh, c'est un gars qui joue en studio. Mais je le connais pas. Je l'ai jamais vu.
Les policiers se mettent en planque et ils le serrent quand il rentre chez lui. C'est Messina. Il n'oppose aucune résistance. Mieux, il annonce aux policiers qu'il a tué 2 personnes et qu'il est recherché. Et il ajoute crânement
« Eh ben bravo les gars, vous allez prendre du galon. »
Le procès de Joseph Messina s'ouvre devant la cour d'assises de Chambéry le 10 octobre 1995. Il est là, dans le box, fier, la tête haute, le regard défiant, et la chemise ouverte sur son torse, sur lequel, au bout d'une chaîne, on voit luire une croix d'or. Une vraie tête de patron d'auto-tamponneuse.
Monsieur le Président, je voudrais que vous lisiez la lettre que j'ai envoyée, à voix haute, pour que les jurés sachent. Monsieur Messina, il en est hors de question.
Et à partir de là, il ne répond plus qu'aux questions qui lui plaisent, c'est-à-dire pas beaucoup. En revanche, sur les meurtres, il est d'accord pour s'expliquer. Et on s'aperçoit que 2 ans après les faits, sa colère est intacte.
Magali, elle m'a humilié. Elle m'a piétiné. Elle méritait la mort. Tout comme son copain Thierry. Ce que j'ai fait, je le referai 10 fois. Alors oui, je suis un assassin. Mais je suis un assassin propre. Je suis en paix avec ma conscience. Depuis que j'ai tué Magali. La vérité, c'est que je vis mieux.
Et quand on lui demande de raconter le meurtre de Magali,
j'ai tiré une première fois. Ça l'a touché dans le bras. Et là, j'ai regardé sa sale gueule. Et je lui ai remis une 3e balle dans la tête. Ça vous voit comme ça?
Et après, à chaque fois qu'il parle d'elle, il dit
« C'est une pute! C'est une salope! C'est une poubelle à sperme! C'est une traînée !»
Un expert psychiatre vient à la barre.
« Il est intelligent, et capable d'affectivité. Mais dans le cadre passionnel de sa relation, la rupture initiée par Magali Ferrand a représenté pour lui une blessure narcissique, absolument intolérable pour lui. Avant que les jurés ne se retirent pour délibérer, Joseph Messina a le dernier mot. Vous savez, quelle que soit la peine qui va m'être infligée, la souffrance qui m'attend me fera moins de mal que m'en a fait Magali. Eh bien ça, on verra. Après 3 jours de procès, Joseph Messina est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté de 18 ans. Mais c'est pas fini. En mars 2019, après 25 années passées derrière les barreaux, il bénéficie d'une permission de sortie. Et il ne rentre pas. Le revoilà en cavale 25 ans plus tard, mais pas longtemps. Il est rattrapé un mois plus tard à la terrasse d'un café de Chambéry et dans sa voiture, les flics trouvent des armes. Retour en prison. J'en ai vu des brêles dans ma vie. Je vous en ai raconté des histoires de tarés. Mais celui-là, il est phénoménal.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.